Vous écoutez Aube, une émission présentant des initiatives qui cherchent à réaliser une autre vision du monde. Toutes nos émissions sont disponibles en balado via laplumedefeu.com. Aube, épisode 6.
Au début du 20e siècle, on riait en moyenne 20 minutes par semaine. À la fin du 20e siècle, seulement 5 minutes.
8% des gens ne rient jamais. Est-ce parce que notre monde se prend trop au sérieux?
Dans ce 6e épisode, Aube s'est penché sur les loisirs, les temps libres, le plaisir de se perdre dans un univers imaginaire.
On te propose de te rassembler autour de valeurs humaines, écologiques et collectives, de prendre action simplement par une prise de conscience.
Le mot-clé, jouer. Au pays imaginaire, tout le monde peut jouer à ce qu'il veut, quand il veut. Par exemple, moi aujourd'hui, je joue à faire de la radio. Ici, c'est normal de jouer. Tout le monde joue tout le temps. Pas besoin d'avoir fini ses devoirs. Les adultes jouent avec les enfants avec d'autres enfants, et surtout, les adultes jouent avec d'autres adultes. Bref, jouer, c'est tout ce qu'il y a à faire. Il suffit d'une belle journée ensoleillée pour qu'on se retrouve tous au parc, à jouer aux échecs, à la pétanque, au frisbee, grimper dans les arbres, monter sur des slacklines, simplement s'écraser dans le gazon à profiter du soleil. Les jours de grisaille, les plus téméraires vont danser sous la pluie. Les plus frileux jouent dans les couvertes, en équipe de deux. Ou plus, il y a toujours de la place pour un joueur de plus au pays imaginaire. Il y a aussi beaucoup de monde qui joue à travailler. Les enfants vendent de la limonade, les adultes travaillent sur des projets un peu plus complexes, mais stimulants. Moi, j'ai une amie, par exemple, qui s'occupe de la protection des milieux marins. Elle va plonger dans les îles pour s'assurer que les barrières de corail sont en bonne santé. Tu peux jouer à cuisiner, prendre ton vélo puis aller jouer dans le trafic pour aller travailler. Jouer à servir des clients ou jouer à construire des maisons. Même la politique est un jeu. Les bleus contre les rouges. Ils prennent ça très au sérieux. Ça demande beaucoup de préparation, il faut lire des tonnes de documents pour être prêt. Jouer, ça implique beaucoup de responsabilités. Faut faire attention. Quand je dis jouer, c'est pas rien faire. Ici, jouer, c'est pas une perte de temps. C'est une activité valorisée. Tout le monde accepte ses responsabilités pour que le jeu fonctionne comme il faut. Au fond, tout est un jeu au pays imaginaire. Suffit d'avoir la bonne attitude. Plutôt que de voir le jeu comme une catégorie d'activité, ici, le jeu est une façon d'aborder le monde. Et puisque tout est un jeu, tu peux jouer le rôle que tu veux. Tu peux même être toi-même.
À toutes les époques, les humains ont tenté de se représenter le monde dans lequel ils évoluaient afin d'en augmenter leur compréhension. Le théâtre s'est toujours imposé comme un moyen pragmatique de porter un regard critique sur la réalité. Toutefois, l'avènement de l'aristocratie provoqua une scission dans cet art jadis festif et populaire. Dès lors, certains élus furent désignés pour exécuter leurs prouesses, les acteurs, alors que tous les autres furent condamnés à demeurer passifs, les spectateurs. Ainsi, le théâtre devint un véritable instrument d'endoctrinement de la masse crédule. Au fil des siècles, les gardiens de l'institution aristotélicienne muselèrent les auteurs et mirent à l'index nombre de trésors dramatiques. La censure alla même, au Moyen Âge, jusqu'à interdire à tous les acteurs, désormais perçus comme des criminels, de se donner en prestation. Kidnappé par le palier supérieur de la hiérarchie sociale, le théâtre est devenu un art élitiste auquel le peuple n'a plus accès. Les statistiques démontrent que seulement 1 % de la population québécoise fréquente régulièrement les théâtres, alors que dans d'autres pays, c'est le village entier qui l'incarne. Jean-Jacques Rousseau proposait de sortir le théâtre des salles et d'en faire un événement forain auquel chacun ajouterait sa magie enfantine. Bertolt Brecht, pour sa part, a tenté de faire du spectateur un agent actif susceptible de provoquer des changements dans sa propre vie. Il parle ainsi du spectateur qui, au lieu d'être en mode réceptif, voit son intellect et ses sens sollicités, ce qui l'incite à prendre position. Cette nouvelle manière d'appréhender le théâtre a germé dans l'esprit d'Auguste Boalt. Depuis plusieurs décennies, ce dernier œuvre sans relâche pour redonner au peuple opprimé les rênes du théâtre et leur permettre de bénéficier de ses vertus. Celui ou celle qui fait une incursion dans cet univers farfelu s'aperçoit rapidement de l'importance accordée au bon fonctionnement du corps. Cette pratique est toujours accompagnée d'une discipline physique rigoureuse qui permet au joueur de prendre conscience de son corps et de développer ses capacités motrices. Chaque corps a son propre vocabulaire et il est fascinant d'apprendre à décoder ses messages signifiants dans l'attitude gestuelle des autres. Ceux qui goûtent à l'expérience théâtrale augmentent leur potentiel expressif et acquièrent une meilleure écoute des autres. Stimulant l'imaginaire, favorisant l'abstraction, le discernement et la métacognition, le théâtre prodigue aux jeunes de précieux enseignements. Les ombres, les marionnettes, les masques ou encore le cirque permet à chacun de trouver une place qui lui convient. À l'image des villages africains qui célèbrent leur cohésion par un joyeux rituel, le théâtre, en plus de fournir une bonne dose de plaisir et d'adrénaline, inculque une discipline de vie qui rend chaque individu responsable, conscient de sa valeur et de sa place au sein de la société.
Un texte de Patricien Blanchet tiré de Aube, le recueil de solutions. Adaptation et narration par Marie-Claude Tardieu.
Un spring dans le coude. Ainsi, de manière parfaitement impulsive, il lance. Tout. Tout est un projectile et tous les lieux, les plus wild et les moins accessibles sont ses préférés, sont des cibles. Régulièrement, donc, on se retrouve face à une laveuse qui cache des restes de pizza, des clés dans le bac de recyclage, des bobettes volantes ou un déo dans le four. Ça nous a permis de manger pendant un mois des petits plats qui goûtaient la fleur mauve. Ainsi, cette caractéristique circassienne de ma progéniture m'a appris. non seulement à aiguiser mes réflexes de catcher et à utiliser tous mes membres simultanément, mais aussi à déplacer des électros sans blesser, me faufiler dans des interstices miniatures, à escalader des parois bancales entre deux cabanons, à devenir amie avec les voisins de tous mes amis, ou encore plus récemment, à aller pique-niquer avec un escabeau. Ainsi, à la piscine municipale par une très estivale journée fériée, fils 1 tira d'un soigné assez juste, ma foi, sa sandale sur la capine de la cabane. Non, l'angle ne nous porta pas secours. Après consultation du staff en place, nous arrivâmes à la conclusion que pour récupérer la dite gougoune avant les 3 prochaines années, il nous fallait un escabeau privé. Et c'est là que JP devient le héros à la gougoune. Et sous les rires d'un trio d'adultes, il se rendit à sa voiture, attrapa l'escabeau privé et la sandale retrouva son propriétaire. Jusqu'à ce que... Enfin... La morale du récit? Il n'y a jamais trop de stock de Renault dans votre char quand vous venez pique-niquer avec mes fils et avec moi. Et ne sous-estimez jamais le potentiel de tir d'un kid autiste de 7 ans. Plus, faites vraiment des bons amis.
Dimanche après-midi. Tout le monde chill. On est sur notre balcon. On peut s'imaginer présentement nos voisins dans leur piscine en train de passer leur tondeuse pour ceux qui n'ont pas de chance d'avoir une piscine. Bref, qu'est-ce qu'on fait dimanche après-midi?
Les dimanches après-midi, ça devrait être sacré. On devrait rien faire le dimanche après-midi.
Jouer à des jeux de société.
Aller à la montagne.
En camping, sortir.
Tu sais, juste là, on est installé, tout le monde est bien peinard. Il y a quelqu'un qui lit une revue. Moi, je pense à mes parents, ils sont au chalet présentement, en train de regarder le fleuve.
On est bien, il fait chaud. Les oiseaux chantent.
En toute honnêteté, si tu décides que tu travailles pas, il y a tellement d'affaires à faire.
Et nous, on se retrouve là. On fait de la radio en plein été. On expérimente quelque chose d'assez idéal. On a du fun. On fait des montages complètement loufoques. Puis là, présentement, ben, on vous parle. C'est ma terrasse.
Ben, tu sais, moi, j'ai commencé mon monologue en disant « Aujourd'hui, je joue à faire de la radio. » Moi, c'est beaucoup comme ça que je le vois. Tu sais, c'est une manière de jouer, d'être ludique, de jouer avec l'information que j'ai rassemblée dans ma semaine, avec mon envie de changer le monde, puis avec 2-3 logiciels quelconques pour patenter des affaires.
Tu sais, quand on s'est auto-interviewé, moi, ça me ramène un peu à cette idée-là de notre auto-interview, c'est de dire, OK, qu'est-ce qu'on veut faire exactement avec cette émission-là? Puis, présentement, là, on est rendu à quoi, la 6e épisode, puis on voit ça se déployer. On a déjà la 7e, la 8e qui s'en vient dans la mire. On regarde ça aller, on sait qu'est-ce qui s'en vient. Puis c'est intéressant parce que c'est très... Il y a l'aspect ludique, je pense, qui nous anime depuis...
De pas trop se prendre au sérieux, mais en même temps d'avoir un regard critique sur ce qui se passe, parce que clairement, là, t'en parlais bien, il y a des gens qui sont pris là présentement, il faut qu'ils fassent leur tondeuse, c'est leur seule journée où ils peuvent aller faire l'épicerie, ils ont du ménage à faire dans leur appartement, ils sont à course toute la semaine. Nous, on trouve que c'est un modèle qu'il faut changer. Puis notre façon de le faire, c'est de s'asseoir sur un balcon l'après-midi, puis de jaser dans un micro. C'est vraiment là un refus de participer à cette société-là des tondeurs de gazon.
Dans le fond, qu'est-ce qui est vraiment important, c'est être... vraiment d'avoir des bons souvenirs.
Au bout du compte, c'est ça qui compte. C'est pas le temps que tu passes à être sérieux, c'est le temps que tu passes à jouer. T'sais.
Alors, il fait beau, il fait chaud. On s'est dit, pourquoi pas faire de la radio dans le petit parc à côté de chez moi? Donc, voilà la chronique d'Aurélie Suberchico de cette semaine qui va nous parler des bons plans pour partir à la pêche, aux loisirs à Montréal.
Il y a 2 semaines, j'ai fait la connaissance de la sœur de mon partenaire d'escalade. Québécoise, de Québec, elle trouvait qu'il y avait vraiment beaucoup plus de choses à visiter en Europe. Châteaux, vieilles pierres, musées... Bref, elle ne tarissait pas d'éloges sur le vieux continent. Ça n'était pas pour me déplaire et flatter ma fibre franchouillarde, mais j'ai trouvé qu'elle devait sûrement avoir peu d'informations sur Montréal et toutes les sorties possibles. Et pourtant, il y a tellement à faire. Étant donné mon amour inconditionnel pour cette ville et ce qui a décidé de mon immigration il y a 5 ans, j'ai mis plusieurs outils en place pour me tenir au courant de l'actualité artistique et intellectuelle. Aujourd'hui, petit tour d'horizon pour se faire plaisir et enrichir ses connaissances. Au-delà du divertissement, comment s'émerveiller à moindre frais ? Tout d'abord, si vous n'avez pas d'argent, mais que vous voulez vous cultiver. Donc, petit point sur la culture gratuite. D'abord, en premier lieu, j'aimerais souligner que la culture n'est pas gratuite, rappelons-le. Payer des artistes qui ont passé plusieurs années à devenir des professionnels, ça se paie. Idem pour les travailleurs culturels que l'on oublie bien trop souvent. Et ça n'est pas parce qu'au Québec, une grosse partie des budgets des institutions culturelles est encore assumée par les ressources publiques que ça ne coûte rien. Oui, ça coûte de l'argent et même beaucoup. Pour rappel, si on devait financer un spectacle uniquement par les recettes de billetterie, il en coûterait 150 à 250 dollars le billet moyen dans une salle comme Wilfrid Pelletier. On a quand même de la chance au Québec, bon, jusqu'à nouvel ordre bien sûr, de pouvoir compter sur une subvention conséquente de la culture par les fonds publics, même si les coupes actuelles dans les subventions et dans les budgets des agences paragouvernementales risquent de mettre plusieurs organismes en grosse difficulté. Mais si vous êtes étudiant ou travailleur à faible revenu, ça n'est pas une excuse pour rester inculte. De nombreux lieux proposent une programmation de qualité, très diversifiée et très peu chère. En premier lieu, les maisons de la culture. Dans chaque quartier, des maisons de la culture invitent le public à des concerts, des conférences, des spectacles de danse. Pour connaître la maison de la culture la plus proche de chez vous et sa programmation, tapez www.accesculture.com. La salle que j'apprécie tout particulièrement, c'est la chapelle historique du Bon Pasteur. Vous pourrez même y écouter des ensembles comme Caprice, un ensemble de musique baroque, qui donnait au mois de mars un magnifique concert de musique. Les festivals, quels qu'ils soient, proposent toujours une programmation gratuite. L'été arrive et vous aurez bientôt l'occasion de sortir vos feutres pour souligner tous les concerts qui valent la peine. N'oubliez pas non plus les programmations musicales des facultés de musique, McGill ou l'Université de Montréal, concerts de musique de chambre, récital, brass band, musique électroacoustique, vous allez en découvrir et en avoir plein vos mirettes. Les facultés sont remplies de talents actuels et en devenir, et un très bon moyen de découvrir d'autres styles. Rappelons pour l'expérience un petit marathon de 4 heures de musique électroacoustique qui, loin de me dégoûter, m'a légèrement surpris, mais après avoir survécu à l'expérience, je suis devenue assez intéressée par ce genre. Si vous faites le choix d'un spectacle gratuit culturel, gardez quand même toujours en tête que ce spectacle est un cadeau et un privilège. Si vous économisez sur le prix d'un billet parce que l'accès est gratuit, n'hésitez pas ensuite à dépenser de l'argent pour un spectacle qui va vous tenir à cœur. Votre dépense est alors à envisager comme un micro-don, une manière pour vous de clairement soutenir un groupe, un ensemble, une compagnie qui vous plaît particulièrement. Et de consommateur, vous devenez alors consomme-acteur. Pour les sports de plein air. Alors là, il y a un canif qui nous poursuit. Les sports de plein air. Pour la course en trail, l'escalade, le kayak, la randonnée, le choix est vaste au Québec pour prendre l'air. Mais une question épineuse arrive vite quand on souhaite sortir. Avec qui et comment? Eh bien, les meet-up sont là pour vous aider. La concept est simple. Vous vous inscrivez sur la plateforme de meet-up et vous vous inscrivez aux nouvelles sorties et aux activités qui vous plaisent. Que ça soit pour de la méditation dans un parc, une rando dans les Adirondacks, un entraînement pour une course d'escalade, mais aussi un cours de cuisine ou une rencontre sur la créativité et les ressources de financement en culture, vous trouverez forcément quelque chose qui vous plaira. Rencontre sportive, c'est un site qui vous permet de dater, mais aussi simplement de trouver des partenaires pour un sport. Il vous suffit d'indiquer que vous êtes là seulement pour des rencontres amicales, et les choses sont claires. Dans le lot, certains auront une pratique déjà en place et un moyen de transport. Troisième point, les conférences. Alors, on n'y pense pas souvent, mais les conférences, c'est une mine d'or pour accéder au savoir en assistant à des prises de parole enrichissantes. Qu'il s'agisse de naturopathie, de chimie et de développement durable, de sciences urbaines, notamment les conférences données par l'IRIS, l'Institut de Recherche d'Information Socio-Économique, des conférences d'histoire, avec celles qui sont pour moi un gros bon point, les conférences de l'Institut de Recherche Méditerranéenne et son cycle de conférences-concerts. On parle encore des belles soirées de l'UDM ou encore des conférences du Musée des Beaux-Arts. Bref, le savoir, les amis, est à portée de main. Rien de plus riche et de plus satisfaisant que de plonger littéralement dans une pensée au-delà du vernis de surface et du divertissement. E180, là j'aimerais bien quand même faire une petite aparté même s'ils sont assez connus. Vous souhaitez découvrir un nouveau loisir mais vous ne savez pas par où commencer. Eh bien E180 va rapidement devenir ton meilleur ami. Plateforme d'échange de connaissances, le principe est simple. On se connecte, on indique nos besoins. Donc, par exemple, apprendre la céramique, utiliser un logiciel de montage vidéo, en savoir plus sur la fiscalité du travailleur autonome ou aller à la pêche aux champignons québécois. Eh bien, on rencontre des personnes qui vont proposer des échanges, d'échanger sur ces sujets durant une heure. On rencontre la personne et celle-ci a défaut de nous apporter tout le savoir indispensable pour ne pas mourir lorsque l'on ira folâtrer dans les fougères à la recherche de nos champignons sauvages, aura au moins le mérite de nous mettre sur la piste et de suggérer des ressources pour en savoir plus. À nous ensuite de nous retrousser les manches une fois le rendez-vous terminé. Alors maintenant, comment on fait pour aller à la pêche aux infos et comment s'y retrouver sans être abonné à 344 newsletters? Eh bien, la newsletter, c'est quand même votre arme privilégiée, mais vous pouvez en scruter certaines qui sont pour vous un recueil pertinent d'informations. Donnez vos contre confiance à vos salles chouchous et aux sites qui recensent les spectacles qui s'en viennent. Moi, ma salle chouchou, c'est le théâtre La Chapelle. Eh bien, je suis allée m'inscrire à la newsletter. Sinon, vous avez des espèces de news de sites en fait qui regroupent toutes les informations sur des genres. Par exemple, vous avez le site samuse.ca, c-a-m-u-z.ca, le site de Nightlife, quoifaireaujourd'hui.com, sauronsaumontréal.ca, mais aussi sortu.ca, qui sont des sites qui recensent beaucoup de sorties par genre, que ce soit la danse, la musique, les concerts, les festivals, etc. Enfin, dernier bon plan, la page Facebook gratuite à Montréal donne la parole à ceux qui ont un bon plan et le partagent. Bref, vous l'aurez bien compris, Montréal regorge d'idées, d'initiatives, de regroupements, de sorties organisées et de lieux à visiter. On parle de divertissement, de fun, mais n'oubliez pas que ce qui est source de richesse et de satisfaction, ça n'est pas juste la paillette et le glitter de licorne. Grattez un peu, partagez et vous découvrirez à n'en pas douter de nombreuses sources d'enrichissement intellectuel.
Dans leurs imperturbables sénescences, les pièces entichées de leurs carreaux unicolores bougeaient à l'aune des esprits. Les mains immobiles tremblaient sous le foisonnement caustique des multiples embranchements du possible. Et les yeux, tous fixes sur le quadrillage flemmard, ignoraient les reflets du soleil d'été. Les deux joueurs, alignés comme pour se faire abattre, menaient un combat d'un autre monde. Une fine bourrasque égayait leurs réflexions et moi, bien sûr, dans le repli de mon ironie imperturbable, j'aguichais leur intérêt par mes frivolités. N'avez-vous donc pas fini ? Ce jeu n'est rien d'autre qu'un passe-temps obscur, de blanc ou de noir, vous jouez avec des ombres. Ils ne me répondirent pas, et continuèrent silencieux leur économie de gestes immobiles. Le jeu d'échecs m'a toujours fasciné. J'y vois le théâtre des antagonistes, agonisant tantôt sous la lumière de leur opposé ou l'ombre de leur propre déchéance. Si le plateau eût été un cercle, l'Europe aurait connu bien plus tôt l'harmonie des contraires dans le yin et le yang éternel. Mais l'homme aime tout ce qui peut avoir des limites, et bien vite, le carré fut déterminé comme l'élément le plus probable pour assouvir les besoins calculateurs des génies militaires lors de leur temps libre. Je me permis de divaguer. Imaginons non plus un jeu où des forces s'opposent, mais bien plus des non-forces. Des choses qui ne s'affrontent donc pas, mais s'enchevêtrent pour former quelque chose de nouveau. Tout cela sur un plateau rond, bien entendu. Nous aurions alors ici le jeu de la vie. Une circulation infinie d'activités en tout genre où le gagnant serait le plus évolué, le moins figé dans ses habitudes de grabataire. Le théâtre, lui-même, ne le montre-t-il pas ? Dans la pièce, sans aucun doute qu'il y ait des morts, des tragédies, des romances ou des meurtres, celui qui s'en sort toujours, sans dommage ni raflure, reste encore l'acteur qui a su, dans le Theatrum Mundi, s'adapter par excellence jusqu'à devenir la multitude. Alors pourquoi ne pas devenir nous-mêmes les acteurs de ce monde et tout plein d'un éveil nouveau dépasser le jeu quotidien des échecs et des victoires pour gracilement devenir maître du jeu ?
Pour sauter comme des crabes. C'est peut-être la solution à un conflit vieux de 70 ans. En réponse aux tensions croissantes entre Israéliens et Palestiniens, le Quai d'Orsay a proposé d'organiser cette année une fête des voisins géante à Jérusalem, un concept qui a déjà fait ses preuves dans les grandes villes de France.
Vous savez, les problèmes entre Israéliens et Palestiniens ressemblent beaucoup à ceux d'une copropriété. Nuisances sonores, charges trop élevées, tirs de roquettes dans les parties communes. Alors qu'au fond, il suffit de se réunir autour d'une bonne planche de fromage, on discute un peu et on se trouve plein de choses en commun.
Interrogé sur d'éventuelles craintes d'affrontements pendant la fête pouvant dégénérer vers une troisième intifada, la responsable de la logistique et présidente de l'association Immeuble en Fête reste confiante.
Vous savez, les Israéliens, les Palestiniens, c'est du pipi-tcha. Avec ce que j'ai vécu avec les Lefebvre et les Roussel, alors je vous dis que là, c'était autre chose.
Une opération de promotion du bon voisinage qui requiert tout de même une organisation particulière.
On a prévu 15 tonnes de fraises Tagada et 850 mètres de guirlandes rigolotes tendues entre la mosquée Al-Aqsa et le mur des Lamentations. Et on a distribué à tous les habitants un petit serpentin. Flou ! Ah, ça change des pierres !
En cas d'échec de cette initiative, le gouvernement français ne serait pas à court d'idées. Laurent Fabius aurait proposé à Mahmoud Abbas et Benjamin Netanyahou de décider définitivement du vainqueur du conflit à Call of Duty.
Vous êtes toujours à l'écoute de Aube, une émission présentant des initiatives qui cherchent à réaliser une autre vision du monde.
Plus tôt en début d'émission, vous avez entendu « Le théâtre, un engrais prolifique », un texte de Patriciane Blanchet, adapté par Marie-Claude Tardy.
La chronique d'Aurélie sur la pêche aux loisirs gratuits.
Et juste avant la pause, nous avons entendu un extrait du site de nouvelles satiriques, legorafi.fr.
Si vous avez manqué notre première partie, toutes nos émissions vous sont offertes en balado et peuvent être téléchargées via laplumedefeu.com.
À venir dans la deuxième partie, Réclame ta rue, ou la réappropriation de l'espace urbain par le ludisme.
Le jeu de rôle qui permet de faire dans l'imaginaire tout ce qu'on oserait réaliser dans la réalité.
Et les bienfaits du rire sur la santé physique. Depuis quelques années, la ville de Québec est l'hôte, ou la victime, d'un événement manifestif d'inspiration européenne. Réclame ta rue. Pendant une journée, une rue mystère est fermée à la circulation et ouverte à l'art de vivre.
L'événement consiste en l'appropriation de l'espace urbain par des citoyens qui se donnent la liberté d'en faire ce qu'ils veulent. Imaginez les possibilités. Contre la logique marchande, dont la voiture est le symbole et pour les logiques alternatives et le plaisir de la fête, Réclame ta rue se veut un espace temporaire, non marchand, créatif et autogéré.
Mais que revendiquez-vous? Se demande tout bon Nord-Américain soucieux de connaître les finalités de toute chose. Cette question, lancée à tout hasard et presque par réflexe, représentait un problème pour les porte-parole. Pour ces derniers, la meilleure réponse était « pour que la ville soit plus adaptée aux humains ».
Mais elle est incomplète. Réclame ta rue encourage aussi l'initiative communautaire et la remise en question de l'ordre établi. Souvenez-vous que la dite rue est bloquée sans permis de la ville, et donc contre la volonté des forces de l'ordre. De plus, en tant que lieu de rencontre, l'événement a pour but d'agrandir et de consolider le réseau social des gens qui ont des valeurs alternatives.
Les organisateurs s'accordent sur deux grands objectifs de l'événement. Faire les choses autrement et rassembler des personnes partageant des valeurs communes. Mais il ne suffit pas de connaître les objectifs pour définir entièrement l'événement. La manière dont il arrive à ses fins le caractérise. En un mot, manifestif. Dans ce mot est cristallisé le mariage entre la fête et la contestation. Réclame ta rue possède une part de folie joyeuse qui lui est propre.
En résumé, c'est donc un espace ludique, une zone rendue momentanément propice à l'émergence de possibles. La circulation automobile y est bloquée, le système aussi.
Réclame ta rue est un micro-chaos qui se veut en constant mouvement. Brassage de monde et d'idées dans l'immédiat, l'événement est un carnaval au sens de révolution non permanente. Habitués à se laisser porter par le système, ceux et celles qui font l'expérience d'un vide de normes courent la chance, ou le risque, de changer leur manière d'aborder le quotidien.
Le jeu de rôle, c'est à la fois bâtir une histoire et en être l'acteur. C'est en démêler les énigmes en combinant les talents de chacun au moment opportun. À la fois un vrai jeu et un plaisir créatif, convivial et motivant. Citation de Didier Guisérix, rédacteur en chef du magazine Casus Belli. Le jeu de rôle permet de faire dans l'imaginaire tout ce qu'on oserait réaliser dans la réalité. C'est un jeu coopératif où tous les joueurs évoluent généralement vers un but commun. Le principe en est simple. Le jeu se déroule dans l'imagination des joueurs. Dans le jargon, on nomme maître de jeu la personne du groupe jouant le rôle du narrateur. Celui-ci décrit ce que voient et ressentent les personnages des joueurs tout en incarnant l'ensemble des personnages secondaires qui peuplent l'univers. En fonction de la mise en situation, les joueurs vont devoir agir en décrivant les actions que tentent d'accomplir leurs personnages. Le tout est régi par un système de règles qui rend l'expérience plus ludique. Chaque scénario permet de faire évoluer son personnage en expérience, mais aussi en maturité. Il devient donc plus réaliste, plus vivant, sa famille et son entourage se dessinent, la relation entre les joueurs se précise, on entre dans le jeu plus facilement. Les scénarios de jeux de rôle peuvent avoir pour cadre toutes les époques et peuvent se dérouler sur toutes les planètes, dans toutes les dimensions, la seule limite étant votre imagination. Il existe sur le marché des jeux de rôle médiéval fantastique, de science-fiction, des aventures à la Indiana Jones ou encore du style policier, historique, post-apocalyptique, contemporain, fantastique et j'en passe. À première vue, lorsque l'on découvre les jeux de rôle, on peut penser que la majorité des jeux sont assez violents. Mais il existe beaucoup de jeux où la violence n'est pas la préoccupation première et que l'enquête et l'aventure, les intrigues et la politique, le savoir et le mystère sont les bases autour desquelles sont construites les scénarios. Pour s'initier à l'univers des jeux de rôle, je ne peux que vous conseiller L'Appel de Cthulhu. Ce jeu se déroule dans les univers de H.P. Lovecraft, un maître de la littérature fantastique des années 20. Ce jeu d'enquête et de mystère a pour cadre les années folles et l'époque de la Prohibition en Nouvelle-Angleterre. On peut aussi jouer dans des univers construits par des écrivains célèbres, par exemple avec Tolkien pour Le Seigneur des Anneaux, qui a inspiré Donjons et Dragons, ou encore Alexandre Dumas, qui n'est pas en reste, avec des jeux de cap et d'épée tels que Les Secrets de la Septième Mer ou Pavillon Noir. Si vous êtes plus du type science-fiction, des sagas de space opéra telles que La Guerre des Étoiles ou Star Trek pourraient peut-être vous intéresser. Lorsque l'on fait l'acquisition d'un livre de jeu de rôle, le premier livre que l'on achète est celui qui explique les règles du jeu et les grandes lignes de l'univers dans lequel se situe l'action. Un scénario vient donner un aperçu des possibilités offertes par le jeu. On peut par la suite se procurer des suppléments, qu'on appelle, qui décrivent les aspects plus approfondis de l'univers, ainsi que des scénarios prêts à jouer pour ceux qui n'ont pas envie d'écrire leurs propres aventures. La création littéraire est un des aspects que je trouve très intéressant dans la pratique de ce loisir. Écrire ses propres scénarios en tant que narrateur permet de faire vivre des situations très particulières à des personnages assez uniques. Les scénarios vendus sur le marché sont souvent écrits de façon à être adaptés à un public plus large et non spécifiquement à des personnages en particulier. Une fois que l'on a compris le principe de base du jeu de rôle, les supports matériels comme les livres de règles et de scénarios, les dés et les divers éléments qui rendent ludique la pratique du jeu de rôle perdent de leur importance pour devenir imagination pure. Pour améliorer l'atmosphère autour de la table, on peut se servir de musique d'ambiance telles que des trames sonores, de musique de film inspirées de l'époque et le moment où se déroulent les scènes. Le jeu de rôle stimule d'innombrables qualités telles que l'improvisation, le théâtre et le jeu de personnages, mais aussi les relations humaines dans des situations de travail de groupe, des moments de prise de décision et tous les talents relatifs à la création et à l'imagination. Ce loisir permet un développement personnel accéléré puisque l'on fait face, virtuellement, à des situations problématiques bien avant qu'elles ne se produisent dans notre vie tous les jours.
Tu sais, par exemple, malgré tout, si la vie, c'est un jeu de société. Donc, tu te lèves le matin, tu sais que t'as tel nombre d'heures à gérer, t'as tel nombre de pièces à gérer aussi, faut que tu manges là-dedans, faut que tu prépares tes lunchs, faut que tu prépares pour aller travailler, puis tout ça, si c'est vu, par exemple, sur avec des pichetounes pis des cossins, là, que tu déplaces sur une carte avec des cartes.
Quand j'arrive au travail, moi, j'ai la chance de travailler tard en après-midi, fait que j'ai tout le temps mon matin, puis après ça, je rentre au travail, puis je sors le soir. En arrivant, les gens ont déjà commencé leur journée. Moi, j'arrive souvent, j'ai eu tout le temps de relaxer, de faire mes affaires. J'arrive l'esprit très, très libre. J'arrive en vélo, il fait beau. Les gens sont en train de prendre leur pause. Puis là, j'arrive sur une attitude, ils m'appellent le vacancier.
Idéalement, c'est de mettre la bonne musique puis de siffler en travaillant. Ou même des chansons à répondre, des fois, ça peut être drôle. Là,
où on s'en va avec ça? Où, dans quelle pièce ça va aller? Ça rentre-tu? Où est-ce que je vais brancher ça? Sont où mes prises d'électricité? Pourquoi ça n'allume rien?
T'as une recette. Puis après ça, tu peux varier, tu peux rajouter des affaires, tu peux faire des tests. Tu dis, OK, hey, je vais essayer ça de même, je vais rajouter telle petite pincée de gingembre, là, parce que le monde va s'en rendre compte.
Je pense que c'est mon été du cégep. J'ai rencontré cette personne-là. Quelle personne extraordinaire, à toutes les fois qu'on faisait quelque chose, c'était un jeu. Dans le sens que, OK, là, faut aller chercher telle affaire à tel endroit. Elle était comme, OK, cool, c'est un jeu. Puis ça changeait toute l'attitude qu'on avait par rapport à ce qu'on s'en allait faire. De toute façon, il fallait le faire. Fait qu'autant avoir l'attitude de « c'est un jeu », comment qu'on peut s'arranger pour avoir du fun à travers cette étape-là de notre journée.
Quand tu fais n'importe quelle tâche, tu dis « OK, non, non, regarde, la vaisselle, ça peut devenir drôle. » Puis finalement, t'embarques les enfants là-dedans, t'embarques tes amis, puis là, finalement, déménager, « Hey, écoute, ça, c'est drôle. »
Quand on va être assis autour de la pizza à la fin, on va avoir eu du fun. C'est la partie qui est moins jouée à faire de la radio. C'est prendre le 15 minutes d'enregistrement qu'on a fait, puis comme en retirer les niaiseries.
Rire. Prenez-vous le temps de rire. Êtes-vous entouré de gens qui vous font rire? Un enfant rit en moyenne 300 à 400 fois par jour. L'adulte ne rirait, lui, que 20 fois par jour. Des études démontrent que les individus laissent de moins en moins de place au rire. 19 minutes en 1939, 6 minutes en 1983 et moins d'une minute aujourd'hui. C'est drôlement insuffisant, pensez-vous? Pouvez-vous croire que 8% des gens ne rient jamais? Aujourd'hui, il y a une explosion d'humoristes, ce qui est une réaction normale contre tout le tragique qui est véhiculé par les médias. Difficile de ne pas avoir le cœur aigri et l'humeur maussade face à tout ce qui se passe sur la planète quand on regarde tous les soirs le téléjournal. Sans compter tout le stress du travail et nos problèmes personnels quotidiens. C'est pourquoi il est primordial de s'accorder du temps pour rire. Depuis toujours, c'est un mode de communication. 500 ans avant Jésus-Christ, on recommandait le rire pour fortifier tout le corps. Au 13e siècle, un chirurgien proposait le rire pour accélérer la guérison des plaies. En 1928, James Walsh, un médecin américain, avait proclamé « La santé d'un individu est proportionnelle à la quantité de son rire ». Depuis quelques années, un hôpital ontarien a deux salles pour lesquelles on ne peut que parler du positif. Si on se plaint ou qu'on parle de nos malheurs, on est invité à quitter les lieux. Le rire a plein d'effets positifs. D'abord contre le stress. Il déclenche la sécrétion d'endorphines, hormones qui diminuent ou qui éliminent complètement la douleur. C'est un exercice musculaire presque complet. Pour le cœur, rire aux éclats est équivalent à faire du jogging. Il nettoie aussi les voies respiratoires. Et on peut même faire cesser une crise d'asthme en faisant rire la personne. C'est aussi un bon exercice de rééducation respiratoire pour tous ceux qui souffrent d'emphysème. Le système immunitaire est lui aussi stimulé par le rire, la détente et le jeu. Et tout le système cardiovasculaire bénéficie de notre rire. notre taux de cholestérol, la pression artérielle diminue et cela prévient le durcissement des artères. Donc, dans tous les domaines médicaux, on remarque que les personnes déprimées sont plus sujettes à l'infection. Alors, comment changer d'attitude quand on est maussade? Bien, d'abord, prendre conscience qu'on est maussade. Deuxièmement, vouloir changer d'attitude. Et troisièmement, se forcer pour rire aux éclats pendant 30 secondes. Selon les médecins, 10 à 15 minutes de rire par jour permettraient pourtant de se maintenir en bonne santé. Mais sachons reconnaître les saboteurs du rire. La gêne, la peur, le jugement, les prophètes de malheur, les gens négatifs. On se tient loin de ces mauvaises énergies. Et pour unir les membres d'un groupe, on dit que le rire est extrêmement bénéfique. Alors, il est bon d'apprendre à rire en famille pour renforcer les liens. Et en plus, on peut le faire tout le temps. C'est un remède naturel et un atout immunitaire important. C'est gratuit et tout le monde est capable de rire. Ça vaut vraiment la joie de se forcer.
En 1532, François Rabelais proposa sa vision personnelle de la cité utopique idéale en décrivant dans Gargantua l'abbaye de Thélème. Pas de gouvernement, car pense Rabelais, comment pourrait-on gouverner autrui quand on ne sait pas se gouverner soi-même? Sans gouvernement, les thélémites agissent donc selon leur bon vouloir, avec pour devise « fais ce que voudras ». Pour que l'utopie réussisse, les hôtes de l'abbaye sont triés sur le volet. N'y sont admis que des hommes et des femmes bien nés, libres d'esprit, instruits, vertueux, beaux et bien naturés. On y entre à 10 ans pour les femmes, à 12 ans pour les hommes. Dans la journée, chacun fait donc ce qu'il veut. Travaille si cela lui chante, et sinon, se repose, boit, s'amuse, fait l'amour. Les horloges ont été supprimées, ce qui évite toute notion du temps qui passe. On se réveille à son gré, mange quand on a faim. L'agitation, la violence, les querelles sont bannies. Des domestiques et des artisans installés à l'extérieur de l'abbaye sont chargés des travaux pénibles. Rabelais décrit son utopie. L'établissement devra être construit en bord de Loire, dans la forêt de Port-Huault. Il comprendra 9332 chambres. Pas de mur d'enceinte car les murailles entretiennent la conspiration. Chaque bâtiment sera haut de 10 étages. Un tout à l'égout débouchera dans le fleuve. De nombreuses bibliothèques, un parc enrichi d'un labyrinthe et une fontaine au centre. Rabelais n'était pas dupe. Il savait que son abbaye idéale serait forcément détruite par la démagogie, les doctrines absurdes et la discorde, ou tout simplement par des broutilles. Mais il était convaincu que cela valait quand même la peine d'essayer.
Un texte tiré de l'Encyclopédie du savoir relatif et absolu de Bernard Werber. BernardWerber.com.
For the benefit of Mr. Kite, there will be a show tonight on trampoline. The Hendersons will all be there, late of Pablo Fanke's fair. Have you seen it? It's great, they got stuff. Over men and horses, hoops and garters. Lastly, throw a hog's head of real fire. In this way, Mr. K will challenge the world with the blue people. They're great, they're just chilled out. The celebrated Mr. K performs his feat on Saturday at Bishopsgate. Nice neck of the woods. The Hendersons, they're gonna dance and sing as Mr. K flies through the ring. Oh, don't be late. Mrs. K and H show the public their production second to none, baby. And of course, Henry the Horse gonna do the waltz. Oh, You've got to see it. It's genius. I mean, she's brilliant. She does this stuff. It's movement. It's waltz. Horses, how do they do that stuff? You gotta give her sugar, you know? And she's called Henry, and it's a lot of explanation, but don't worry about it, kids, okay? Just tune in, turn off, drop out, drop in, switch off, switch on, and explode. The band begins at 10 to 6 when Mr. K performs his tricks without a sound. And Mr. H will demonstrate 10 somersets he's gonna do on solid ground, whatever they are. Having been some days in preparation, a splendid time is guaranteed for all. And tonight, Mr. K is topping the bill, baby, across the universe. It's me. I'm on top of the bill. I spent years getting to this point. I'm bloody brilliant. It's just God, you gotta see what I do, man. I got horses and dogs and cats and monkeys and blue people. It's such a collection. I spent years putting it together. You gotta watch it. You gotta see it. It's me. In the thing.
Lors d'une sieste concert au Centre Phi, je me suis présentée à cet événement-là avec mon plus jeune fils et on a participé à l'activité. À la fin de l'activité, un homme s'est doucement approché de mon fils et moi en portant un message pour l'humanité. Alors chevaleresque, le individu a déroulé tout son discours sur une voix monocorde semi-intello-cheap avant de nous préciser à quel point notre présence au concert dérangeait. Que j'étais une mère insouciante et qu'un enfant qui s'endort sur sa maman après avoir fait deux dessins et beaucoup d'efforts de silence lisse, il fait aucune crise, je vous jure, aucune. Mais que cet enfant-là est nuisible à l'expérience tantrique de la musique. Comme sa vibe proposait peu d'atouts pour créer une relation ou un échange constructif, j'ai pris le temps de scanner mes possibles. J'ai donc d'abord plissé mes yeux en pensant que j'arriverais à lui jeter un mauvais sort. J'ai aussi souhaité super fort qu'il s'autocombustionne, puis j'ai imaginé y en foutre une. Il n'y a rien de ça qui est arrivé. Je suis sagement restée assise. Et tout en continuant d'habiller mon fils, j'ai relevé ma tête avec un grand sourire avant de simplement lui rappeler qu'avant d'être un vieux grincheux désagréable et prétentieux, il avait sûrement été un adorable petit bébé que sa maman avait peut-être osé sortir. Dommage. Mais que ses commentaires pertinents avaient bel et bien atteint le bureau des plaintes. Eh bien, le petit monsieur, il est resté et il a repris son discours au début. Bien, j'ai une suggestion, cher monsieur et tous les autres de votre espèce. Si l'envie vous prend de faire des recommandations à un parent pour ses choix d'activité familiale ou sa façon de réaliser celle-ci, notez ça. Ce sera probablement pas un bon moment. 2, tout est dans la manière. 3, ouvrez-vous un atelier. Si vos conseils nous intéressent, je vous jure qu'on va payer pour. 4, on s'en fout. Mais on s'en fout. Vraiment, vraiment. On s'en fout.
C'est ce qui conclut le sixième épisode de Aube.
Toutes nos émissions vous sont offertes en balado et peuvent être téléchargées via iTunes, laplumedefeu.com et via SoundCloud.
Si vous vous sentez inspiré par notre émission, nous vous invitons à participer à celle-ci car chaque émission est le fruit des collaborateurs du moment.
Si vous avez deux secondes pour nous offrir vos commentaires, il nous ferait grand plaisir de vous lire sur laplumedefeu.com, sur Facebook ou via Twitter.
Dans cette émission, vous avez entendu les œuvres de Guillaume Lambe, Philippe Laramé, Jean-Baptiste Gardarin, Annick Daigneault, Aurélie Suberchico, Marie-Claude Tardy et Maude Campeau.
À la réalisation, au montage et à la mise en onde, Philippe Laramé et Guillaume Lambe.